C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, c'est la fête aujourd'hui dans C'est pas du vent. Ils sont venus du Kenya, du Mali, du Togo, du Cameroun, de Gambie, du Sénégal et du Niger. Ils ont bravé les difficultés sanitaires et gagné la bataille des visas pour se retrouver à la COP26 à Glasgow en Écosse. C'est là que nous nous sommes rassemblés dans le studio de RFI monté pour l'occasion. L'occasion, c'est un anniversaire car le point commun de tous les jeunes que vous allez entendre dans cette émission, c'est qu'ils appartiennent au mouvement des jeunes volontaires pour l'environnement, les JVE. Créé par Sena Aluka en 2001 au Togo, le mouvement fête cette année ses 20 ans. JVE, c'est plus de 1500 volontaires dans 26 pays africains qui se battent sur tous les fronts. Éducation à l'environnement dans les écoles, distribution de foyers améliorés, accès à l'eau potable, campagne de sensibilisation, mais aussi plaidoyer auprès des décideurs politiques. Ça valait bien une émission.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Sena Aluka.
Bonjour Anne-Cécile, bonjour RFI, bonjour le monde entier.
On fête les 20 ans des jeunes volontaires pour l'environnement cette année, donc en 2021. 20 ans, ça fait donc 20 ans que vous avez eu cette idée de créer les jeunes volontaires pour l'environnement. Comment s'est née toute cette aventure ?
Merci beaucoup pour l'opportunité. Je pense que je suis l'homme le plus heureux de la Terre ce soir. D'abord d'être sur RFI, de parler à la radio mondiale, mais surtout de me faire entourer par des jeunes d'un peu partout. Et ensemble, en communion, de célébrer ces 10 ans fois 2 que nous avons passé ensemble à changer nous-mêmes, à changer le monde autour de nous et à laisser un impact durable pour nous, mais aussi pour les générations futures. Oui, l'idée est partie par un effet fortuit dans un petit village du Togo, Kpelechiko, ça s'appelle, à 120 km de Lomé. Un feu de brousse, les jeunes se soient là-bas, regardant toute la population comme un seul homme, aller éteindre le feu et revenir. Voilà comment l'idée est venue. Il faut faire quelque chose parce que la forêt, la ceinture verte autour de nous, eh bien, se dissipait progressivement.
Et donc ça, c'était il y a 20 ans. 20 ans plus tard, les jeunes volontaires pour l'environnement, c'est quoi ?
C'est grand, ce n'est plus une ONG, ce n'est plus une association, c'est un mouvement de jeunes. C'est une génération qui a été impactée. Nous avons pris quelque peu de la barbe, on a pris aussi des cheveux blancs, mais c'est avec beaucoup de plaisir de voir aujourd'hui, grâce à nos actions, des personnes s'éclairent dans un village. Il y a des enfants qui vont à l'école grâce à nous. Il y a des gens qui, aujourd'hui, s'alimentent en eau potable grâce à nous. Nous avons aussi réussi à faire améliorer les conditions de vie de populations entières, mais surtout à travailler aux côtés des États et à faire changer des politiques autour de l'énergie, autour de l'alimentation, autour de l'eau. Eh bien oui, donc aujourd'hui, j'y veux, c'est un mouvement mondial. Parce qu'au-delà de l'Afrique, nous avons également une présence en Suisse, en France et en Belgique. Donc c'est 28 pays au moins. C'est le plus grand mouvement environnemental de jeunesse sur l'environnement en Afrique.
Alors dans combien de pays en Afrique ?
28 en Afrique, donc 26 en Afrique et 2 hors d'Afrique.
Alors ce mouvement en Afrique, en tout cas, il est en partie avec nous ici. On enregistre donc cette émission à la COP26. Donc avec nous, nous avons Salomé du Kenya. Bonjour, hello.
Hello, hi.
Nous avons aussi Silenou du Cameroun.
Bonjour.
Joe Bongai de Gambie.
Hello, everyone.
Oumou du Mali.
Ok, bonjour.
Djibril du Sénégal. Djibril qui, alors, n'est pas à Glasgow, mais qui est avec nous en ligne grâce aux nouvelles technologies, on va dire pour faire simple, parce qu'on a défié les lois de la technologie dans cette émission. Avec nous aussi, grâce aux réseaux sociaux, Sani du Niger, bonjour.
Oui, bonjour Anne, bonjour tout le monde.
Et Kossivi est avec nous aussi. Kossivi, vous êtes d'origine togolaise et aujourd'hui vous vivez à Dakar, mais vous êtes un enfant aussi de JVE.
Effectivement, bonjour tout le monde.
Alors, on va démarrer avec une question que j'ai envie de vous poser à chacun. C'est pourquoi est-ce que vous avez eu envie de rejoindre JVE, Kossivi ?
C'est une question difficile, je ne sais pas, mais c'était ce qu'il fallait faire en ce moment-là et je l'ai fait parce que j'avais des aînés qui étaient dans le mouvement, qui montraient l'importance du mouvement. J'ai joint le mouvement et j'ai beaucoup appris du mouvement. Voilà.
Alors vous, c'était au Togo en 2003 que ça a débuté.
Exactement, j'étais arrivé à l'université, au-delà des cours, il fallait s'occuper. J'ai rejoint JVE, j'ai appris progressivement auprès de JVE, auprès de tous ceux qui étaient là. Ça a été un environnement bon enfant, donc on n'y allait pas forcément pour apprendre, mais on allait pour tuer le temps. Progressivement, on a pris des responsabilités et voilà, c'est comme ça que c'est parti.
Et qu'est-ce que vous avez appris ?
J'ai appris d'abord comment vivre, comment être un être humain utile à sa société. J'ai appris aussi à protéger l'environnement. Mes débuts en environnement, véritablement, ont commencé là à JVE. On touchait à l'époque à tout. On était de vrais volontaires. On allait sur le terrain, on donnait de notre temps, on servait l'humanité.
Mais pour faire quoi ?
Pour améliorer le vécu des gens, pour apporter notre petite aide aux autres, pour se sentir utile aussi et pour contribuer à cette lutte-là qui consistait à conserver la biodiversité si chère à la nature et à la génération future.
Tout a démarré au Togo, Sénat.
Oui, c'est parti du Togo. En effet, dans ce petit village-là de Belechiko, on voyait quand même qu'il y avait des éléments précurseurs. Maman, c'est une dame extrêmement, quand il s'agit de volontariat, c'est elle qui mobilisait les gens. Elle s'appelle Davé, donc Davéronique. Honneur à elle et honneur donc à toutes nos mamans qui nous ont inspirés. Et donc, j'ai appris le bénévolat, le volontariat auprès de cette dame. Ensuite, il y a des associations de volontaires qui venaient. Donc, ils s'organisent dans le village des camps chantiers internationaux de jeunes. Donc, tout petit, on voyait. Moi, j'ai fait ma première traduction anglais-français quand j'étais au CM2. Parce que dans le village, il y a personne qui savait dire good morning. Donc, on m'a pris comme traducteur à l'époque, j'étais au CM2. Bon, bref. Et donc, tous ces éléments ont permis à faire grandir à moi. Et puis, je ne vais pas manquer de le dire, également, une éducation religieuse d'un monde meilleur, il faut travailler pour améliorer les conditions de vie. Tout ça a donné l'ingrédient suffisant pour que le cocktail soit bon. Et que, bon, voilà, l'idée, quand il y avait ce feu de brousse sur la montagne, paf, c'est parti. Il faut faire comme font nos mamans, il faut faire comme font les associations qui passent dans le village quand on était tout petit.
Alors, Silenou, vous, c'est donc au Cameroun que vous avez implanté JVE, c'était à partir de 2012. Comment est-ce que vous avez rejoint le mouvement ?
Alors, on rejoint le mouvement simplement parce qu'on est déjà engagé dans les mouvements scolaires. À l'époque, le mouvement environnemental commence à prendre de l'essor au niveau du lycée.
Vous étiez où ?
J'étais à Yaoundé, au lycée de Mimboman. Et tout doucement, on commence à s'intéresser à cette nouvelle chose qui semble assez intéressante et qui, pour le dire en vérité, nous tombe dessus parce qu'on est des retardataires à l'école, on n'est pas très toujours pointilleux dans nos leçons et puis bon voilà, on nous fait punir à chaque fois. Et à chaque fois, il faut aller planter des arbres, à chaque fois, il faut aller nettoyer des salles. Et puis avec l'appétit venant en mangeant, on se dit, bon, tiens, voilà, il semble que le lavage des mains, c'est quelque chose d'assez intéressant qu'il faut faire. Il semble que la plantation des arbres, c'est devenu une question d'utilité publique, une question primordiale aujourd'hui. Donc voilà, la passion naît avec un peu de distraction et puis on finit par retrouver JVE qui a commencé déjà à ce moment-là à avoir de l'essor. Donc sur les réseaux sociaux, je tombe sur Sénat qui fait de très belles choses. Et puis bon voilà, de fil en aiguille, on commence à monter un tout petit peu le mouvement au niveau du Cameroun. Donc il faut dire qu'entre-temps aussi, je profite d'une formation de Greenpeace qui nous montre quelques petites techniques. Et il faut bien trouver un cadre pour pouvoir exprimer tout ce qu'on a appris de gauche et à droite avec les uns et les autres. Et comme ça, JVE naît en 2012.
Et aujourd'hui, JVE au Cameroun, c'est 600 personnes.
Aujourd'hui, c'est plus de 600 volontaires répartis sur l'étendue du territoire national, avec pratiquement 200 à 300 sur Yaoundé, 200 à 300 sur Douala, et puis une bonne petite quantité dans les régions du nord, de la Damawa, un peu partout. Voilà.
Alors JVE, c'est aussi au Kenya, Salomé. Donc peut-être, comme vous savez traduire, Sénat, vous allez traduire ce que dit Salomé quand on a commencé au CM2. On est bon pour traduire. Donc Salomé, au Kenya, ça a démarré comment, JVE ?
Thank you so much for this opportunity. We began in 2006 and it has been awesome experience. We've worked with so many young people.
Nous avons commencé en 2006 et ça a été une expérience formidable, surtout à voir le volontariat que beaucoup de jeunes manifestaient.
Yeah, and it has been an awesome experience having to teach people how to conserve the environment.
Donc, ce qui est intéressant dans l'expérience JVE au Kenya, c'est le fait que JVE a offert une plateforme qui a permis un peu de réaliser un petit miracle des jeunes Kenyans qui donnent de leur temps bénévolement au service de l'environnement. C'est très rare dans ce pays-là. Donc, voilà, ça, c'est un petit miracle made in JVE.
Yes, and we've worked with various schools, right from the kindergartens.
L'activité principale d'IVE au Kenya, c'est l'éducation à l'environnement, donc mobiliser les étudiants qui allaient partager cette bonne nouvelle environnementale depuis le jardin d'enfants, au CEG, au lycée, et donc c'était ça l'activité principale.
Vous travaillez aussi auprès des femmes.
Yes, we also involve women and we've worked with them and taught them how to make their own energy saving jackets.
Oui, au-delà des enfants, nous travaillons également avec les femmes, notamment sur les questions d'efficacité énergétique.
This kind of model helps us to cut down.
Donc nous les apprenons à fabriquer elles-mêmes les foyers améliorés. Les foyers améliorés permettent de réduire la quantité de biomasse de bois utilisée.
So this helps us to conserve the number of forests that we have in Kenya.
Et dans la province de Kerenia où nous avons travaillé, ça a permis de réduire la déforestation.
We also know that when you use charcoal to cook, it emits a lot of smoke, which destroys the respiratory system of these women.
Tout le monde sait que l'utilisation de foyers traditionnels non améliorés émet de la fumée, et cette fumée cause beaucoup de problèmes pulmonaires, respiratoires, pour tant les enfants que les mamans, les femmes.
So this is a win-win because we are conserving the trees and also considering the health of these women.
Donc non seulement on améliore l'écologie, on réduit la déforestation, mais également ça permet d'améliorer la pollution et avec la qualité de l'air interne et donc la santé des femmes.
Vous avez formé combien de femmes au Kenya? Est-ce qu'on peut estimer?
We've worked with a group of women of 15 in number.
Donc on a travaillé avec près de 15 groupements de femmes au niveau du Kenya.
Félicitations. Alors on enchaîne avec le Mali. Oumou, comment est-ce que vous êtes investi dans JVE? Comment ça a démarré cette aventure au Mali?
Je peux dire que j'ai été toujours fascinée par la vie associative. Et en 2012, JVE SENA est venu au Mali pour participer à un forum sur l'environnement. Et je pense que c'est de là qu'il a rencontré notre premier président, Kissima Sida. Donc lui, il a décidé de faire un volet JVE au Mali. Donc il a fait appel à ses connaissances, à ses amis, à ceux qui ont vraiment envie de la vie associative, qui aiment un peu l'environnement. Donc il nous a expliqué un peu l'initiative de JVE et on a vraiment adhéré à l'idéologie, à l'engagement et à l'énergie que portait cette initiative. Donc je peux dire que je suis membre fondateur de JVE Mali depuis 2012. J'ai été en ce temps chargé de JAR au sein de JVE et je pense qu'au fil des années, vu mon engagement, vu que j'aimais vraiment ça, l'aspect de la vie associative m'a vraiment tenu à cœur parce que j'aime vraiment rendre service. J'aime savoir en fin de compte que j'ai vraiment fait quelque chose pour la génération future, pour l'environnement et aussi j'aime apporter de mon temps et de ma connaissance pour vraiment aider autour de moi. Donc vu cet aspect, en 2016, on m'a nommée directrice exécutive des jeunes volontaires pour l'environnement. Et depuis 2016 à nos jours, je siège en tant que directrice exécutive de JVE Mali.
JVE Mali donc est implanté à Bamako. Vous avez combien de volontaires autour de vous?
Oui, JVE Mali a plein de volontaires. Je peux dire que nous, on est parti avec une autre particularité. Parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de structures de jeunes associations qui évoluent aussi dans le même domaine que JVE. Donc nous, on a essayé de faire une ceinture. On a les scouts, on a l'association des mains vertes, on a Climate. Et on a essayé de faire cette ceinture-là. Et nouer partenariat avec ces associations, ils constituent aussi une base, c'est-à-dire ce sont des membres, on peut dire, sympathisants de JVE Mali. On a aussi des membres actifs, on a des écoles dans les 6 communes de Bamako. Et aussi, comme membre actif, même, on peut prendre une 50aine qui est vraiment sur notre groupe WhatsApp. Et aussi, on a un bureau exécutif de 15 personnes qui travaille activement pour vraiment l'évolution de JVE de façon nationale et internationale.
On fait une petite pause musicale et ensuite on retrouvera d'autres membres de JVE, notamment au Niger et au Sénégal. Thank you.
security. This is a call from the Green Army, defending the peace of the human race. The children keep dying and the bombs still fall. The ozone's opening and the gas is still calm. They're chopping the trees and they're killing all the whales. United warriors of the Green Army. Would you care if I was?
C'est pas du vent sur RFI. Nous sommes avec les membres actifs des Jeunes Volontaires pour l'Environnement, un mouvement, puisqu'on ne dit plus une ONG, un mouvement qui fête ses 20 ans en 2021. On est ravis de fêter cet anniversaire avec vous, tous ces membres de JVE là, qui sont autour de moi. Nous sommes à Glasgow, à la COP26, mais tout le monde n'a pas pu venir à Glasgow à la COP26, donc on a aussi des membres très actifs de JVE qui sont avec nous à distance grâce aux réseaux sociaux. Bonjour Djibril Niang, vous êtes au Sénégal, vous êtes à Dakar. Depuis quand vous êtes membre de JVE?
Moi, j'ai rejoint JVE en 2011, mais JVE est arrivé au Sénégal en 2010. Donc nous aussi, on fête cette année nos 10 ans, mais on remet tout à l'international. Donc on va fêter ensemble les 20 ans. Et depuis 2013, donc, on a su bâtir une organisation qui est devenue incontournable au Sénégal. Et nous travaillons sur plusieurs questions.
Sur lesquelles, par exemple?
Voilà, donc nous travaillons sur les questions d'éducation à l'environnement. Nous travaillons aussi sur les questions d'agroécologie. Et aussi, il y a aussi les questions connexes. Donc, il y a beaucoup d'autres questions sur lesquelles nous travaillons, les risques des catastrophes, sur l'énergie propre, sur la promotion des énergies renouvelables et beaucoup d'autres questions, toutes les questions qui touchent l'environnement. Et dans notre pays aussi, principalement, les questions liées aussi à l'érosion côtière, mais sans oublier aussi les questions liées à la gestion des déchets, parce qu'au Sénégal, nous avons réussi, avec d'autres organisations, à pousser une loi jusqu'à ce que cela soit voté. Et j'y vais à pleinement jouer sa partition depuis 2014. Et on fait bien notre travail au Sénégal, comme les gens le font à l'international. On a de bons coachs, voilà, ils sont là sur le plateau, à dessous, voilà.
Félicitations pour ça. On file en Gambie maintenant, parce que On traverse les frontières hein, grâce à
la Gambie
cette
est juste à côté du Sénégal.
La Gambie est juste à côté du
Sénégal.
Du Sénégal. Donc Joe Bongay de Gambie, quand est-ce que JVE est arrivé en Gambie?
Well, actually, JVE came to the Gambia in 2011 and it was officially licensed in 2012.
JVE est arrivé en 2011 sur la terre gambienne et officiellement lancé en 2012.
The reason being there was a demand and need for such existence of such organization.
L'association est arrivée très au bon moment parce qu'il y avait un besoin crucial à l'époque, puisque les communautés sont très éloignées des politiques. Et grâce à JVE, donc il y avait cette passerelle qui a pu être créée entre les communautés à la base et les décideurs politiciens.
So its existence bring about in a very
oui, la communauté étant pas consciente de ce qui se passait à leur milieu, à leur environnement, se posait beaucoup de questions. Donc grâce à JVE, il y a eu cet éveil de conscience, cette explication du phénomène mondial, notamment le changement climatique, et cette prise de conscience aussi sur la nécessité de préserver cette diversité biologique.
Since the economic of Gambia is solely focused on agriculture, and of course the people's livelihood was basically on agriculture.
Les enjeux écologiques sont énormes et affectaient directement les communautés, les citoyens gambiens, l'accaparement des terres, la déforestation, l'érosion des sols, l'érosion côtière, et puis la perte de la fertilité des sols, donc un déficit en termes de souveraineté alimentaire.
So from there the organization start building the institutional capacity of local groups.
Donc grâce à JVE, il a été fait un travail intéressant de traduction des politiques internationales, des conventions dans un langage accessible aux communautés, mais aussi permettre à ces populations de comprendre les engagements que leur pays a pris à l'échelle internationale.
So understanding the policies, so
l'action de JVE Gambie s'est jouée sur deux plans. D'abord, réduire cette disparité, cette fracture entre la population, cette distance entre gouverner et gouvernants, donc permettre à la population de participer à la prise de décision, mais aussi accompagner les populations, les communautés décentralisées elles-mêmes à pouvoir participer, sinon élaborer leur propre plan de développement local.
So after the engagement now,
donc une fois que cet éveil de conscience a été engagé, a été enclenché, les populations ont pu être capables de pouvoir demander davantage de redevabilité, de compte de la part des gouvernants, et bien aussi comprendre surtout les grands enjeux autour d'eux, les questions liées aux pesticides, aux produits chimiques, à la crise climatique, à la perte de la biodiversité. Oui, ces populations ont pu comprendre ces grands enjeux et les ont liés aux réalités locales.
JVE Gambie, pour qu'on comprenne l'ampleur, c'est combien de personnes? Vous êtes présent dans beaucoup d'endroits dans le pays?
The organization is comprises of multi-stakeholder membership.
JVE Gambie, c'est plus de 100 volontaires avec un conseil d'administration composé d'une diversité de membres venant tant du gouvernement que de la société civile, mais aussi des représentants des communautés.
Merci beaucoup. On file au Niger. Nous sommes avec Sani Ayouba de JVE Niger, les jeunes volontaires pour l'environnement. Sani, comment ça a débuté JVE au Niger?
Oui, mais JVE a débuté au Niger dans les années 2009, où dans le cadre de l'école d'été de la francophonie à Ouaga, j'avais rencontré Adessou et d'autres collègues de JVE tels que JVE Côte d'Ivoire qui nous ont parlé de l'initiative. Et de retour à Niamey avec des camarades étudiants à l'époque, nous avons lancé le mouvement. Et petit à petit, ça a pris. Et à partir de 2012, nous avons eu notre arrêté de reconnaissance officielle, ce qui a démarré officiellement nos activités au Niger. Et surtout, 2009, c'était la COP de Copenhague. Donc, nous avons saisi cette opportunité pour aussi essayer de nous faire entendre et joindre les mouvements de la jeunesse ou des sociétés civiles qui réclamaient un accord ambitieux à l'époque à la conférence de Copenhague.
Et donc aujourd'hui, JVE au Niger, vous êtes présent dans 6 localités le long de la vallée du fleuve. Hein. Vous faites de l'éducation dans les écoles, vous faites de la sensibilisation à l'agroécologie, vous faites aussi de la reforestation au Niger?
Exactement. Vous savez, le Niger est au cœur du Sahel. Donc, quand on parle de préservation de l'environnement, on pense directement à stopper l'avancée du désert. Depuis toujours, le désert ne fait qu'avancer au Niger. Les 2/3 du pays sont désertiques. Donc, c'est normal qu'en tant que structure de gêne sur ces questions, que nous puissions en tout cas concentrer une bonne partie de nos énergies à la reforestation, à la plantation et l'entretien des arbres. Vous savez, au Niger, il y a même une fête nationale de l'armée. Nous, nous souhaiterons que chaque journée soit, en tout cas, chaque occasion de cérémonie soit l'occasion de planter des arbres. La fête des Tabaskés, nous avons ce qu'on appelle la Tabaski écolo, où nous encourageons en tout cas les fidèles, après avoir immolé les moutons, de planter un arbre parce que les moutons seront grillés, donc pour compenser un peu cette quantité de bois. Parce que les études montrent que plus de 50 000 de bois sont consommés rien qu'une seule journée de Tabaski dans la ville de Niamey. Donc c'était entre autres les initiatives. Et il y a l'initiative Reverdir l'Afrique aussi qui concerne la région de Tillabéri. Et depuis 2 ans maintenant, durant la saison des pluies, nous faisons la plantation de... Cette année, c'était à peu près 20 000 plants qui ont été plantés dans des localités du village de Simiri pour contribuer à la reforestation de cette zone.
Et vous distribuez aussi des foyers améliorés ?
Absolument. Nous avons lancé depuis 2012 les foyers améliorés qui utilisent la balle de riz comme combustible. Vous savez, tout au long du fleuve, il y a des rizières et la balle de riz est un combustible, en tout cas, pour aider en tout cas les femmes à utiliser, à réduire leur pression anthropique sur le bois et à utiliser une ressource alternative au bois. Donc la balle de riz n'a pas de valeur marchande, donc c'est gratuit. Donc les femmes peuvent s'en procurer et puis l'utiliser comme combustible à la place du bois. Donc en plus de cela, non seulement elles font économie d'argent, mais également elles contribuent à la préservation du maigre couvert végétal. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a valu cette année d'être... lauréat des initiatives climat Afrique francophone qui depuis la COP22 donne en tout cas récompense les meilleures initiatives portées par les sociétés civiles ou des jeunes entrepreneurs dans le domaine de l'adaptation au changement climatique. Donc avec les fours à balles de riz, c'est plus de 6 000 qui ont été disséminés tout au long de la vallée du fleuve Niger de Ayeru jusqu'à Gaya au profit des femmes, que ce soit les femmes utilisatrices de riz, que ce soit les femmes qui sont dans les ménages pour réduire la pression anthropique, comme je l'ai dit, sur le couvert végétal.
Félicitations pour tout ça. Les jeunes volontaires pour l'environnement, c'est aussi une action politique dans chacun de tous les pays dont nous venons parler. On en parle avec tous nos intervenants juste après une pause musicale.
Mimi
C'est pas du vent sur RFI, nous fêtons un anniversaire aujourd'hui. Nous fêtons les 20 ans des jeunes volontaires pour l'environnement. JVE, c'est un mouvement de jeunes créé par vous, Sena Aluka, en 2001 au Togo. Et aujourd'hui, c'est plus de 1500 volontaires dans 26 pays africains et 3 pays européens, Suisse, Belgique et France. Ceux qui ont pu faire le déplacement se sont retrouvés ici, à Glasgow, à la COP26, où nous enregistrons cette émission. Éducation à l'environnement dans les écoles, distribution de foyers améliorés, accès à l'eau potable, campagne de sensibilisation, mais aussi plaidoyer auprès des décideurs politiques. Les membres actifs de JVE se battent sur tous les fronts et c'est ce qui nous plaît dans C'est pas du vent. D'ailleurs, nous sommes fidèles à votre mouvement, Sena Aluka, puisque nous avions fêté les 10 ans déjà. C'était en 2011 au Togo.
Oui, vous étiez à Thiévier, effectivement. Ça fait beaucoup plaisir de vous revoir. Mais c'est ça qu'on comprend, que les médias sont au-delà d'une force, de l'éducation, mais également, il y a cet engagement qu'on peut voir, et c'est pas du vent, c'est pas qu'une émission radio, c'est aussi un incubateur pour nous. Et à chaque fois que nous avons l'opportunité de tenir ce micro, de parler au monde entier, vous savez pas quelle énergie que ça nous donne, ça nous inspire, ça nous stimule. Mais en tout cas, merci à RFI, merci à la Radio Mondiale.
Alors, on a entendu dans toute la première partie de cette émission les engagements locaux de tous les directeur exécutif, on va dire, des jeunes volontaires pour l'environnement dans tous ces pays. Mais les jeunes volontaires pour l'environnement, c'est aussi un peu un caillou dans la chaussure des politiques. Ça dépend des pays, hein. L'engagement n'est pas fort, n'est pas au même niveau partout, on va dire. Mais c'est un aspect important des jeunes volontaires pour l'environnement.
Absolument. Nous étions partis sur la nécessité de protéger l'environnement. Aujourd'hui, on n'est plus à cette étape. Aujourd'hui, il faut défendre l'environnement. Et au-delà de l'environnement, il y a entre-temps des questions liées aux droits humains. Aujourd'hui, nous parlons du droit de la nature, la capacité, le droit, car M. Moustique, Mme Baleine, Mme Machin, Kakaraka, Scorpion, de vivre sur cette terre-là, parce qu'elle nous appartient à nous tous. Eh bien, donc, cet engagement politique, nous l'avons initié très tôt, effectivement, mais il a fallu beaucoup de temps pour arriver à comprendre un peu le terrain et à se dire, aller planter un arbre, alors qu'à côté, il y a un type avec machine qui coupe 2, 3, 4, 5, eh bien, ça ne nous avance pas du tout. Alors, on a changé, on a amélioré la stratégie et on s'est engagé à fond dans le plaidoyer. Le plaidoyer sur les politiques, il a fallu d'abord comprendre les politiques, comprendre les accords multilatéraux sur l'environnement, comprendre comment fonctionnent les conventions, nous-mêmes nous déplacer vers les conventions, être là où il y a les ministres, être là où ils signent les accords. Et c'est parti. Donc, quoi, on se rappelle de quoi? J'y veux au niveau du Togo, par exemple, en 2012, quand le pays a proposé une politique énergétique, j'y veux l'a lu, l'a fait lire à ses pairs, s'est rendu compte que cette politique ne faisait pas avancer parce que, justement, faisait la part belle aux fossiles, ne parlait pas du tout de la biomasse. Et on a fait un petit plaidoyer. Et grâce à un État, un gouvernement assez, je dirais, très attentif à la voix citoyenne, cette politique, elle n'a jamais passé. Et aujourd'hui, on a un document de politique. Ça fait que on peut dire que quelque part, on a permis au Togo de se mettre sur la bonne trame. Sur la question des ODD, quand les ODD ont été...
les objectifs de développement durable.
Les ODD, les objectifs de développement durable ont été adoptés et les pays devaient rendre compte aux Nations Unies de leurs efforts. Le Togo est allé 3 fois, d'ailleurs on se prépare pour aller une 4e fois pour présenter notre rapport, notre examen volontaire national. Et quand M. le Premier ministre l'ancien premier monsieur Klassou était là pour présenter le rapport du Togo. J'y veux être là dans la salle pour poser la question à la tribune des Nations Unies, à monsieur le premier ministre, quant à la coordination développement au Togo. Et ça a permis d'améliorer beaucoup de choses. Donc, on est présent au niveau local, notamment aujourd'hui avec la décentralisation au Togo, au Bénin, au Niger, au Mali notamment. Mais on est présent au niveau régional, donc je parle du pays, dans les préfectures, etc. Mais au niveau national et mieux à l'échelle internationale. Nous sommes à la 26e conférence des Nations Unies sur le climat et c'est avec plaisir aujourd'hui que je vois beaucoup de gens dans les allées, parce qu'au départ, en 2005, c'était ma première COP, il n'y avait presque pas de jeunes, en tout cas pas francophones. Et on a lancé à l'époque l'initiative de la jeunesse africaine sur le climat, AIC en anglais, et qui a permis à ce que à Copenhague, 80 jeunes ont pu être mobilisés pour venir là où les ministres sont.
Si aujourd'hui Copenhague, c'était en 2009.
La Copenhague, c'était en 2009. Et en 2012, on était à la conférence africaine des ministres sur l'environnement, l'AMSEN, et c'est comme ça qu'on est arrivé à monter JVE au Mali. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que grâce à cet engagement politique, nous sommes là où les ministres sont. L'idée, c'est de donner la possibilité aux jeunes d'amplifier la voix des jeunes, d'amplifier la voix des communautés. Donc, que ce soit sur les grands barrages, que ce soit sur le nucléaire, M. Djibril, vous parlez tantôt de la centrale de Barni à Dakar, au Sénégal, où JVE Dakar s'est beaucoup mobilisé. JVE RDC s'est beaucoup mobilisé autour de grands barrages Inga. Au niveau du Niger, au niveau du barrage Kandaji, JVE Niger a été au front de cette bataille-là. Et au Cameroun, partout, JVE Ouganda, on a travaillé autour de la forêt de Mabira, la Mabira Forest, que l'État voulait donner gratuitement à des Indiens. Oui, comme ça, nous sommes arrivés aujourd'hui à non seulement planter, donc faire ce qui est bien, mais à nous assurer que ce qui est déjà présent, on ne puisse pas le détruire.
Alors justement, s'il est nous, d'Emmanuel Blondel, au Cameroun, vous avez participer avec le gouvernement à votre niveau, en étant, comme je disais tout à l'heure, un peu le caillou dans la chaussure pour essayer de rehausser la contribution nationale du Cameroun, qui est la contribution nationale, c'est ce que chaque pays doit faire pour montrer comment il va réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et vous, vous avez suivi ce que le Cameroun présentait et vous avez dit il y a des choses qui ne vont pas et on vous a écouté.
Tout à fait, on ne dira pas dès le départ comme étant un caillou dans la chaussure, parce que cette approche-là ne marche plus trop bien avec nos gouvernants. On s'est rendu compte qu'en matière de communication, il fallait changer le discours, il fallait trouver une approche plus constructive. Et c'est dans ce sens-là qu'au niveau du JVE Cameroun, nous avons adopté pour une toute autre stratégie, qui était celle de voir dans quelle mesure proposer des solutions et non pas passer le temps à crier sur la tête des politiques et dire ceci n'est pas bien, ceci est bien, mais de leur dire écoutez, voici l'analyse que nous avons faite de ce que vous avez proposé, on trouve qu'il y a des manquements à tel niveau et qu'on pourra éventuellement apporter des solutions qui seront plus viables et qui peuvent permettre au pays d'avancer puisqu'il est question tous ensemble de construire un pays. Alors voici ce que nous proposons. Donc c'est un peu ça la démarche au niveau du Cameroun.
Alors concrètement, qu'est-ce que vous avez proposé ?
Au niveau de la CDN du Cameroun, il faut dire qu'il y avait la contribution déterminée au niveau national du Cameroun. Nous, on avait observé par exemple que la prise en compte de la thématique océan, des bâtiments, n'était pas suffisamment intégrée dans la contribution déterminée au niveau national du pays. Alors nous avons élaboré donc un tout petit document qui essayait de montrer au gouvernement qu'il y a ce genre de points qui seraient intéressants de prendre en compte. Nous avons également proposé au niveau du Cameroun la prise en compte des pertes post-récoltes et du gaspillage alimentaire, parce qu'on pense que ce sont souvent des thématiques qui sont occidentales, que non. Dans notre pays, dans les marchés, entre la plantation et les marchés, il y a énormément de pertes qui sont dues à la qualité des transports, à la qualité des infrastructures de conservation des aliments post-culture.
Et oui, puis, je crois qu'on estime que c'est à peu près 30%. Hein.
Voilà, donc partant de cela, on a estimé qu'il était donc important, parce que ça constitue aussi un fort pan d'émissions de gaz à effet de serre, de proposer au gouvernement d'intégrer ça dans notre CDN qui est passé, je crois, c'est 30% à 35%, quelque chose par là. Donc je n'ai pas les derniers chiffres parce que je n'ai pas encore eu le temps de lire profondément le dernier document qui est présenté ici depuis quelques jours. Voilà.
Et vous avez été entendu. C'est là où, Sena Aluka, on revient à ce que vous disiez, JVE, ça pèse.
Oui, ça pèse. Mais il faut, comme le disait Blondet, il faut reconnaître que nous avons dans notre pays des gouvernements qui sont très attentifs. Au niveau du Togo, le gouvernement met JVE ou des membres de la société civile dans les délégations officielles. Le badge que j'ai ici, c'est un badge parti. Donc, le
gouvernement... C'est comme ça que vous avez pu venir à voilà, la COP26, alors COP 26. Qu'il y a plein d'Africains qui voilà, auraient rêvé de venir. Venir
et voilà, donc ça facilite.
C'était compliqué, ça coûtait voilà. cher.
Donc, donc on n'est pas dans une approche critique avec le gouvernement, mais on veut construire et le gouvernement reconnaît cela et dit, bon, écoutez, viens avec moi. Au niveau de l'agriculture, je n'ai pas les capacités. Est-ce que vous pouvez nous représenter dans la discussion de l'agriculture ? Monsieur Kosivi, vous avez des compétences sur les questions de pertes et préjudices. Est-ce que vous pouvez nous représenter, même si vous êtes de la société civile ? Donc voilà comment nous construisons avec le gouvernement, tout en nous assurant que notre ligne de défense, nos valeurs sur l'intégrité écologique soient respectées, les droits humains, la nécessité de préserver une bonne partie du carbone pour les générations futures, nous nous assurons que cela soit préservé.
Kosivi Adesou, vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, vous avez découvert les jeunes volontaires pour l'environnement quand vous étiez étudiant au Togo. Depuis, vous avez fait du chemin puisque vous êtes coordonnateur du réseau mondial pour la gestion des catastrophes pour l'Afrique. C'est un grand enjeu pour l'Afrique. On sait que les pays les plus vulnérables au changement climatique sont notamment sur le continent africain. Donc aujourd'hui, vous poursuivez le plaidoyer avec les méthodes que vous avez apprises chez JVE, on peut dire ça ?
Bien entendu, même si, comme l'a dit Blondel, les méthodes évoluent, on bâtit toujours à partir de ce qu'on a appris en premier. Et moi, je le dis encore, je suis un pur produit de JVE. C'est vrai, les questions de pertes et préjudices aujourd'hui sont très importantes parce que, figurez-vous, dans 20 ans, l'Afrique, à elle seule, aura besoin de près de 1000 milliards pour gérer les victimes des catastrophes qui seront dues au changement climatique. C'est énorme. Et c'est un plaisir de savoir qu'aujourd'hui, je peux parler sur ces questions-là, je peux représenter l'autorité togolaise, je peux négocier avec d'autres partenaires. Et ça, je ne l'ai appris nulle part, ce n'est à JVE.
Alors, quel type de catastrophes, par exemple, risquent d'être les plus importantes sur le continent africain ?
Il y a deux majeurs, c'est les inondations et les sécheresses. Mais ce ne sont pas des catastrophes, ce sont des aléas qui peuvent conduire à des catastrophes parce que la catastrophe, on ne commence pas à parler de catastrophe à partir du moment où on n'arrive pas à gérer la situation et qu'il y a des pertes en vies humaines ou dans une moindre mesure des pertes matérielles. Mais à partir du moment où il y a des inondations, il y en aura toujours et que les êtres humains et les infrastructures résistent donc aux effets de ces aléas. Là, on parlera toujours d'aléas. Voilà un peu la différence qu'il faut apporter.
Et alors aujourd'hui, vous êtes ici à la COP26. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un décalage entre les discours qui sont prononcés dans les salles de négociation et la réalité du terrain ?
Il y a un net décalage. Ça, on ne peut pas le nier. Mais moi, je reste plutôt sur l'aspect positif des choses. Tout ce que j'ai pu entendre des autorités, que ce soit le discours de M. Biden, hier M. Obama, les discours de tous les chefs d'État et de chefs de gouvernement, il y a quand même une conscience. Il y a la conscience, elle est réelle. L'engagement n'est pas encore au niveau de la conscience, mais on est déjà heureux de constater aujourd'hui quand même qu'il y a cette volonté manifeste de pouvoir évaluer. Et d'ailleurs, je crois que le dernier rapport du GIEC a déboulonné un peu les choses et a montré que alors là, nous tous, nous irons si nous ne faisons rien. Maintenant, j'espère que les États, au regard des enjeux, vont véritablement placer la question environnementale dans les agendas nationaux afin d'en faire une priorité. Je crois aussi, je profite donc de ce panel pour dire que aujourd'hui on parle de risques et catastrophes sur UNDRR, on parle de l'accord de Paris ailleurs. Il est temps que les deux accords viennent ensemble pour véritablement mieux gérer la question des risques et catastrophes, qui est une question très importante parce que nous ne sommes plus à l'ère du changement climatique, nous sommes à l'ère de la crise climatique.
Sénat, Louka, on arrive à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on fait ? On se dit rendez-vous dans 10 ans ?
Rendez-vous dans 10 ans. Dans 10 ans, JVE va dépasser les frontières, nous espérons, Inch'Allah, de l'Afrique, devenir un mouvement mondial. Il s'agit de pouvoir offrir une plateforme à davantage de jeunes de s'engager. Chaque génération, comme disait Franck Fanon, a dans une relative opacité un devoir, celui de pouvoir s'engager, de pouvoir s'exprimer, parler. Et de se mettre aux côtés des gouvernants, mais aussi des communautés, à rendre cette terre meilleure. Nous pensons, nous espérons que ces jeunes qui sont passés par JVE vont continuer leur chemin. Je ne serai pas directeur exécutif du Togo dans 10 ans, mais je travaille pour qu'une génération nouvelle, toute fraîche, toute dynamique, Voilà, oui, un bon politicien, c'est vous qui devez voir les jeunes. Oui, nous, chez nous, il y a la démocratie, mon cher. Voilà, donc nous travaillons pour qu'une génération fraîche, dynamique, puisse continuer le combat, parce que le combat, il n'est pas notre, il est un combat éternel pour que nous autres, humains, nature, écosystème, vivions ensemble. Oui, d'autres mondes meilleurs sont possibles, nous y croyons, nous allons y travailler.
Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci
on
à
On est content, on va dire youpi, youpi. Hey, bravo. Joyeux anniversaire. Happy
birthday to JV.
Merci beaucoup à tous. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et l'enregistrement de cette émission. C'était un petit peu épique. On a défié les lois de la technique, comme toujours avec JVE, mais on s'en est sorti. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça nous fait éminemment plaisir. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.
Jeunesse africaine à mes ira la mounia. Jeunesse africaine à mes ira la moule. Oh ya 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 ya. En fait, je corobali et j'en quelle guerre. Au cas première guerre, deuxième guerre mondiale, quelle guerre. Quand indépendance, quelle guerre. Quand impérialiste, quelle tout. En nous jeunesse africaine, nga nga wiri 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 yo. Oh ya 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 ya. Farafilu nga mesira la munya. Farafilu nga mesira la mule nya. Jeunesse africaine nga mesira la munya. Jeunesse africaine nga mesira la mule nya. Nos ancêtres ont aboli l'esclavage, fait la première et deuxième guerre mondiale, arraché notre indépendance, lutte contre l'impérialisme. Et jeunesse aujourd'hui assis sur leurs réseaux sociaux en train de critiquer. Ils ont fait le pas du combat, écrit les pages de l'histoire. Et jeunesse africaine, il est temps de la création. Il est temps de l'invention. Au lieu de rester une société de consommation. Aïe, oui, 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 aïe, oui, 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 jeunesse africaine, mais sirant la mouille.
Tous les jours à